si bon d'élever le nom de Jésus, ce nom qui sauve, qui a sauvé, qui sauve et qui sauvera encore. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour de joie. Parce que, voilà, c'est un jour de joie dans Luc 15. Jésus dit, de même je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Un seul pécheur, il y a une grande fête dans le ciel. Aujourd'hui, on a 8 qui vont se faire baptiser. Et vraiment, c'est 8 fois plus de joie. Voilà, c'est vraiment un jour de joie parce que, voilà, c'est un engagement que nos baptisés vont faire ce matin. Aujourd'hui aussi, c'est un jour de victoire. Dans Luc, pour vous expliquer, je vais lire. Je pense que beaucoup connaissent cette histoire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais prendre le temps de lire. C'est l'histoire du fils perdu, du fils prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici ?» Je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Voilà, j'ai lu cette histoire. En fait, ça illustre l'histoire de l'homme qui s'est éloigné de Dieu. C'est l'histoire un peu de l'homme qui s'est détourné de Dieu. Et à cause de nos péchés, chacun de nous était éloigné. Mais Dieu, dans son amour, il guettait le jour où on allait revenir vers lui. Le jour où nous allons reconnaître nos fautes, le jour où nous allons reconnaître nos torts, reconnaître que nous avons péché, Dieu, lui, il est prêt à nous accueillir et à se réjouir avec nous et avec les anges. Au verset 23, dans ce texte, le Père dit, « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Il était perdu et est retrouvé. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui aussi, c'est un jour de victoire. Victoire sur les anciennes vies, sur nos anciennes vies. Victoire sur le péché. Victoire sur la mort. Vous entendrez tout à l'heure les témoignages des baptisés pour dire d'où ils étaient et comment ils ont rencontré le Seigneur. Cette victoire, quand je dis victoire sur la mort, c'est parce que Jésus est venu sur terre. Il était venu pour mourir à la croix pour toute l'humanité, pour chacun de nous. Il est venu mourir à la croix pour que nos péchés, il les prenne, pour que de sa mort, nous soyons en vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous célébrons ce jour de victoire. Aujourd'hui aussi, C'est un jour d'alliance. Dieu, par amour pour chacun de nous, voulait être le Père de toute l'humanité. C'est pour ça qu'il a établi une alliance envers l'homme dès la création, pour dire que nous lui appartenons. Mais dans le jardin d'Éden, cette alliance a été rompue à cause du péché. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu il a cherché les moyens pour rétablir cette alliance avec l'homme, parce que par amour pour nous, pour l'humanité. Alors on a vu cette alliance à la création avec Adam. Il a fait alliance avec Noé, avec le signe de l'arc-en-ciel. Il a fait alliance avec Abraham, dont le signe c'était la circoncision, et ainsi de suite. Dieu a toujours cherché à ce que cette alliance soit rétablie. Mais l'homme, il voulait toujours vivre sans Dieu, vivre loin de Dieu. Pourtant, cela n'a fait que empirer la méchanceté dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, comme l'agneau parfait qui ôte le péché du monde. Nous voyons cela dans Jean, verset 1, chapitre 29. Jean-Baptiste dit, en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus, il est venu sur terre pour aller mourir à la croix, pour nous sauver, pour sauver toute l'humanité. Il est allé mourir à la croix, mourir à notre place, pour que nous soyons sauvés. Alors nos amis tout à l'heure qui vont se faire baptiser, ils vont témoigner et ils sont là, ils ont pris cette décision aujourd'hui justement pour rétablir cette alliance avec Dieu. L'alliance de Dieu, elle est éternelle. Mais nous, c'est à nous de revenir par croire à ce que Jésus a fait à la croix. Et cette alliance, elle est rétablie. Il nous fait devenir son enfant. Dieu, le Créateur, il devient Dieu, notre Père. Et c'est le désir de son cœur. Dans Marc 16, verset 16, il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous savez, c'est un peu comme les jeunes gens qui s'aiment. À un moment, ils s'aiment, c'est dans leur cœur. Et pour concrétiser cet amour qu'ils ont l'un envers l'autre, ils vont le concrétiser par l'alliance, par le mariage. Et c'est un peu comme, nos baptisés, ils ont cru à l'œuvre de Jésus-Christ. Ils ont mis leur foi dans cette œuvre que Jésus a fait à la croix. Et aujourd'hui, pour concrétiser cet amour qu'ils ont pour Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ, ils vont faire cet engagement par le baptême pour marquer cette alliance avec Dieu. Alors, c'est quoi le baptême? Le mot baptiser vient du mot baptizo, en grec, qui signifie plonger, immerger, purifier. C'est pour cela que nous faisons les baptêmes par immersion, tout le corps immergé dans l'eau. Pour vous expliquer le sens du baptême, je vais prendre trois exemples dans l'Ancien Testament. En voyant dans 1 Pierre 3, verset 20, qui parle du déluge du temps de Noé. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu fait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisit son bateau. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrées dans ce bateau. Ayant été sauvés à travers de l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui, vous aussi. Du temps de Noé, Dieu, il a envoyé le déluge, car sur terre, il y avait trop de méchanceté. Mais Dieu a sauvé Noé et sa famille et les animaux. C'était un peu l'image du péché que Dieu voulait faire disparaître en répandant la pluie sur terre. Il voulait reconstruire un nouveau monde. Je vais prendre un deuxième exemple, c'est la mer Rouge. C'est le passage des enfants d'Israël dans la mer Rouge. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 2. Frères et sœurs, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont été protégés par les nuages et ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer en étant unis à Moïse. La mer Rouge que les enfants d'Israël traversaient symbolisait le baptême. Avant la traversée de l'Égypte, ils étaient esclaves de Pharaon. Et après la traversée, ils étaient libres. Je vais prendre un troisième exemple, c'est dans Lévitique, chapitre 14, verset 8. Celui qui se purifie, lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ce lieu de purification s'appelle mikvé en hébreu. Ici à Montpellier, il y en a un. Et dans l'Ancien Testament, c'est vraiment un rite de passer dans l'eau pour se purifier. Maintenant, nous allons voir le sens approfondi du baptême à travers la mort de Christ. Nous allons lire dans Romains 6, versets 2 à 6. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Au travers de ce verset, le fait d'être immergé dans l'eau, nous identifions la mort de Christ. C'est-à-dire que lorsque Jésus est mort, nous sommes morts avec lui à notre ancienne vie. Le baptême a la même signification que l'enterrement de notre ancienne vie qui est morte, enterrée dans l'eau. À l'image de l'exemple du déluge du temps de Noé, comme si le péché est enfoui dans l'eau, notre ancienne vie est aussi enterrée. À l'image de l'exemple de la traversée de la mer Rouge, les enfants d'Israël n'étaient plus esclaves de l'Égypte. Mais nous, aujourd'hui, avec le baptême, nos baptisés déclarent qu'ils ne sont plus esclaves du péché. C'est-à-dire que nous devions, nous aussi, mourir à nous-mêmes pour vivre par l'Esprit. En sortant de l'eau, nous nous identifions à la résurrection de Jésus-Christ. À l'image du troisième exemple, qu'il faut prendre le bain dans le mikvé pour se purifier, aujourd'hui, en croyant à l'œuvre de Christ à la croix, nous sommes purifiés et sanctifiés par son sang. Lorsque nous sortons de l'eau, nous affirmons que comme Christ est sorti du tombeau, nous aussi, nous vivons une vie nouvelle. Pourquoi se faire baptiser? Alors, on se fait baptiser parce que c'est un acte d'obéissance. Dans Matthieu 3, verset 13, il est écrit « Alors Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répond « Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. » Alors, Jean accepte. Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a pas péché, il est passé par les eaux du baptême. À combien plus forte raison, nous devions suivre cet exemple, son exemple. Le baptême, c'est aussi un commandement divin. Dans Actes 2, verset 37. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux apôtres, « Frères, qu'est-ce que nous devons faire ?» Pierre leur répond, « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu vous pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. » Quand on aime Dieu, ses commandements, on suit ses commandements. Ce n'est pas une contrainte. On va le faire parce que c'est notre retour en fait à l'amour de Dieu et on va juste obéir à ses commandements. Le baptême, c'est aussi un acte de repentance. Dans Matthieu 3, verset 2, Jean-Baptiste dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et au verset 11, il dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le fait de reconnaître que Dieu a raison. Et que nous étions hors de ce chemin qui va vers le Seigneur. Et la repentance, c'est le fait que nous faisions demi-tour dans notre vie pour suivre le chemin de Dieu. Et on décide de changer de mentalité. On décide de se détourner de notre ancienne vie, de se détourner de nos péchés. Se faire baptiser, c'est aussi la consécration de notre engagement envers Dieu, devant les hommes et aussi devant le monde invisible. C'est une déclaration de notre appartenance à la famille de Dieu. Le baptême, c'est aussi le signe de notre alliance envers Dieu, que nous lui appartenons. Et après le baptême, qu'est-ce qui se passe? Donc les baptisés, ils deviennent officiellement enfants de Dieu. Vos noms sont écrits dans le livre de vie, c'est comme il y a un registre, c'est écrit. Et vous rentrez dans la grande famille de Dieu. Et c'est comme quand il y a une naissance dans une famille, c'est la joie quand il y a une naissance, comme un bébé arrive dans une famille, toute la famille se réjouit. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui. Il y a une naissance spirituelle et c'est la joie dans le ciel. Et la famille se réjouit parce que, voilà, la famille s'agrandit. Et ça procure la joie, c'est une fête. Donc, les baptisés, c'est vrai, rentrent dans la grande famille de Dieu, mais en même temps aussi, dans la grande famille, il y a plein de petites familles, il y a beaucoup d'églises, on n'est pas que nous, l'église clé, mais il y a beaucoup d'églises, même juste sur Montpellier, il y en a beaucoup. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est comme ce sens d'appartenance que j'appartiens à ma famille, à la famille clé. Et la famille, elle est là. Vous êtes comme ces nouveau-nés qui sont là, mais toute la famille clé sont là pour vous aimer, pour vous entourer, pour vous faire grandir, pour que, voilà, vous appreniez, tout comme un bébé qui apprend les premiers pas. Vous allez apprendre aussi les premiers pas de la vie chrétienne. Aujourd'hui, le baptême, c'est vraiment le début de votre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et vous allez vivre votre foi, bien sûr, vous avec le Seigneur, mais aussi en tant que famille. Toute la famille est là. Et en ce moment, dans l'Église, il y a ce qu'on appelle le 1-1. En fait, c'est un accompagnement que nous faisons avec les personnes jeunes dans la foi et justement ceux qui viennent de se faire baptiser. ils seront tout de suite accompagnés pour pouvoir grandir, pour pouvoir connaître la parole de Dieu, pour pouvoir s'affermir dans leur foi. Et vraiment, je voulais m'adresser particulièrement aux baptisés ce matin pour vous dire, bon, je me répète un peu, mais que le baptême, c'est le début. C'est le début de votre marche avec le Seigneur. Mais c'est une belle aventure de vivre avec Dieu. Il est là. Je ne dis pas que tout sera rose, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu sera toujours avec vous, avec chacun de nous, dans toutes les situations de vie. Et je vais terminer que voilà, vous êtes tous amenés à grandir et à devenir autonomes, à savoir prendre du temps, comment prier avec Dieu, comment lire la parole pour pouvoir grandir, manger. Comme autant le corps physique a besoin de nourriture, notre âme aussi a besoin de nourriture spirituelle en puisant dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça que notre foi va se fortifier et que nous allons grandir. Et en fait, quand Dieu nous sauve, il ne nous sauve, on est sauvé, mais on ne s'arrête pas juste à nous. Mais Dieu voit déjà au travers de chacun de vous que Dieu a touché. Il voit déjà une multitude au travers de chacun de vous. À partir du moment où vous allez être accompagnés, vous allez devenir aussi des disciples. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste un bébé, mais voilà, qu'on grandisse. Une fois qu'on devient disciple, à notre tour aussi, on va devenir des parents spirituels pour pouvoir accompagner d'autres et aussi pour être une source de bénédiction pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que vous soyez des sources de bénédiction aussi, pour que beaucoup aussi rentrent vraiment dans le royaume de Dieu. Voilà, maintenant que vous avez commencé à goûter la bonté de Dieu, parce que peut-être une personne a prié pour vous, ou quelqu'un a parlé de Dieu, vous a parlé de Dieu, que ce matin vous êtes là, mais je vous encourage maintenant aussi déjà à guetter autour de vous tous ceux et celles qui sont en attente de quelque chose, en attente d'espérance, parce que qui sont en attente de salut, et que vraiment nous puissions ouvrir nos yeux et guetter ceux qui sont autour de nous, parce que nous savons que c'est Jésus-Christ qui est celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ qui donne la vraie liberté, et c'est ça la bonne nouvelle. Amen.
Oh, merci beaucoup, Nirina. Jésus donne la vraie liberté. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes devenus enfants de Dieu. On va entendre les témoignages. On va commencer par Emmanuel. Et je vous prierai de l'encourager, s'il vous plaît.
Bonjour. Alors, je m'appelle Emmanuel, j'ai 20 ans, je suis originaire du Gabon. Je suis étudiante en architecture. J'y ai toujours vécu jusqu'à il y a 2 mois, lorsque je suis arrivée à Montpellier pour la suite de mes études. Alors, je viens d'une famille de croyants non pratiquants. De ce fait, j'ai toujours entendu parler de Dieu et de son importance, mais il était lointain. Et sans réel attachement, j'ai très vite suivi mes désirs et passions qui m'ont forgé, un caractère mesquin, méchant, hypocrite, conflictuel, car j'ai toujours été le leader dans toutes mes relations. Je prenais plaisir à muscler ce statut qui faisait du mal aux personnes autour de moi, en sélectionnant celles qui m'intéressaient pour diverses raisons et d'autres que je rejetais parce qu'elles prenaient une attention qui gênait mon ego, en les méprisant sans me douter que ces personnes avaient besoin de mon attention. Néanmoins, j'avais toujours un remords. Je savais que ce n'était pas bien et que ce n'était pas moi. Car au plus profond, je gardais un amour véritable sans le montrer. J'étais au contraire une personne sensible, au cœur ouvert, qui cherchait de l'amour autour de moi, autour d'elle, de toutes les manières possibles. Et cette année, toujours au Gabon, j'ai vécu une chose terrible, dont je passerai les détails pour des raisons personnelles. Alors, ça a été une période difficile pour moi, pour mon entourage, d'autant plus que je passais mon examen. À cette période, j'ai encore un autre caractère qui s'est révélé, celui d'une personne qui se détestait, qui en voulait au monde entier. J'avais perdu tout courage, toute confiance en moi et envers les gens. Je m'en voulais tellement, quoi. Ça a été un bouleversement pour moi, mais sans ce bouleversement, je me demande où je serai aujourd'hui. À partir de cette chose terrible, Dieu a commencé à vraiment faire un véritable travail. Je me suis dit, il faut que tu fasses un choix. Et j'ai fait le choix de suivre la voie de Dieu. Arrivé à Montpellier, il y a un peu plus de 2 mois, et invité à l'église clé par le biais de ma sœur Marjorie, à la nuit de miracle où il y avait des révérends venus des États-Unis. Pendant le culte, j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable en moi et j'ai pleuré tellement. J'ai pas arrêté de pleurer. Je sentais un amour inconditionnel et vrai qui était présent. C'était vraiment la première fois que je ressentais la présence de Dieu. Et à l'appel, j'ai décidé avec ferme assurance de le suivre. Et là, quelque chose avait changé, mais quoi, je ne saurais le dire. Alors, toujours un peu dispersée, mais en tenant compte de mon choix, j'ai prié fortement Dieu pendant tout ce temps. Et j'ai pu découvrir quelle importance Dieu m'accordait. J'ai pu voir la vie autrement, plus chaleureuse, plus chaleureuse. J'ai appris à aimer la vie, pas dans les distractions que le monde nous a enseignées, mais par un amour étranger que Dieu m'a fait grâce de connaître. Le pardon qui était mon véritable ennemi, aujourd'hui ne l'est plus. J'ai connu déjà plusieurs guérisons et restaurations, et aussi une magnifique famille que Dieu a placée sur ma route pour me guider, et que je remercie de tout mon cœur. Et aujourd'hui, je reviens encore à lui pour dire merci à Dieu, hein, parce que j'en parle, c'est vrai, mais je l'ai vécu. C'est que c'est une évidence pour moi qu'il a toujours été là. Et lorsque j'ai dit « ça y est, tu peux entrer, je suis prête, tout a commencé ». Je me pose la question tous les jours, « et si cela ne t'était pas arrivé, aurais-tu connu tout cela ?» C'est que non, j'aurais continué ma vie comme bon me semble. C'était un bouleversement pour moi, c'est vrai, mais en fin de compte, j'ai retenu que Dieu prend les pires phases de ta vie pour en faire de merveilleuses choses. Et... c'est qu'il ne peut pas agir si tu ne l'as pas laissé entrer dans ta vie. Et donc, le mal qui t'arrive ne vient pas de lui, même s'il le permet. Alors, je lui redonne officiellement l'autorité que je lui avais donnée sur moi, sur ma vie, en toute sincérité, devant les hommes et le monde spirituel.
Alléluia! Il n'y a pas de meilleur choix que de donner la direction de nos vies à Jésus-Christ. C'est notre Créateur, il nous connaît, c'est lui qui nous a aimés, et du coup il sait prendre soin de nos vies. Il n'y a pas à avoir peur à confier sa vie à celui qui nous a aimés et puis qui veut vraiment nous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est maintenant le tour de Maguelone. On peut l'accueillir avec joie.
Bonjour. Alors, je m'appelle Maguelone, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai 3 filles et je suis esthéticienne. Je suis née dans une famille catholique pratiquante. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 6 ans. Un prêtre m'a expliqué, lors d'un week-end entre enfants, ce qu'était de se confesser. Je lui ai donc raconté mes bêtises et il m'a dit que le Seigneur me pardonnait. Et à ce moment-là, j'ai ressenti... comme une rose qui se mettait à éclore dans mon cœur et un baume qui se répandait dans mon ventre. Et j'ai ressenti vraiment une grande paix, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Puis, jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai fait partie d'un groupe de jeunes chez les catholiques charismatiques et j'y ai vécu de très belles expériences avec Dieu. Ensuite, j'ai commencé à sortir en boîte, faire la fête, connaître la liberté et j'ai mis Dieu de côté. À 22 ans, j'ai rencontré Raphaël, mon mari. J'ai eu le coup de foudre pour lui. Nous nous sommes mis en ménage très vite. Mais quelques mois après, notre vie de couple était compliquée. Car nous étions très différents, deux cultures totalement opposées. Lui gitan, moi française. Mais l'amour était toujours plus fort que nos disputes. jusqu'après la naissance de notre première fille, où j'ai décidé de tout arrêter. Cette séparation me rendait mal. Du coup, maman m'a proposé de venir à l'église, ici à Clé, pour une soirée spéciale. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère avait changé de religion. Et je répétais rejetais complètement ses nouvelles idées. Elle parlait tout le temps de Dieu, j'en pouvais plus. Elle écoutait tout le temps de la musique des louanges dans sa voiture, partout, je supportais plus. Qu'est-ce que ça me saoulait, vraiment ça me saoulait. Je ne le supportais plus. Et au lieu de me rapprocher de Dieu, ça me donnait encore plus envie de fuir. Mais cette fois-ci, je lui ai dit que j'acceptais de venir à l'église, pour lui faire plaisir. Que pour lui faire plaisir. Mais qu'après ça serait terminé, qu'il faudrait plus me demander. Et là, surprise, cette soirée fut pour moi une véritable réconciliation avec Dieu. Ce soir-là, j'ai ressenti sa présence, son amour et surtout sa paix. J'ai beaucoup pleuré aussi. Lui seul me faisait ressentir cette sensation. Depuis ce jour, je n'ai plus quitté le Seigneur. Merci, maman. Et c'était il y a 7 ans. Peu de temps après, Raphaël a voulu venir avec moi à l'église. Il voulait me récupérer. Et un pasteur nous a prophétisé que nous allions nous marier et qu'il nous voyait dans une maison nourrir des gens. Je me suis alors accrochée de toutes mes forces à la promesse de Dieu. Je suis revenue avec Raphaël et pendant 7 ans, jusqu'au jour de notre mariage, je me suis battue dans la prière. Dieu a mis à mes côtés des personnes qui m'ont soutenue et m'ont aidée à ne pas lâcher malgré les difficultés. Chaque fois où je n'avais plus la force de continuer, il y avait toujours quelqu'un qui avait une parole d'encouragement pour moi. Il y a 2 ans, avec Raphaël, nous avons fait le parcours Alpha, qui est un groupe de partage pour connaître qui est Jésus. J'ai voulu amener Raphaël pour qu'il puisse se convertir. Je le faisais pour lui, mais Dieu m'a touchée profondément, encore une fois, lors de l'une de ces soirées. J'ai compris que Jésus avait donné sa vie pour moi, son enfant, pour que je sois sauvée. Je me suis vraiment sentie aimée et importante, et ma relation à Dieu est devenue une relation père-fille. Il devenait accessible, comme un papa qui prend sa fille sur les genoux et la rassure. Durant tout ce parcours Alpha, Dieu a fait un beau clin d'œil à Raphaël. C'était incroyable de voir Dieu répondre à toutes les prières de Raphaël. Puis nous avons eu la maison promise par Dieu, qui est juste parfaite, et puis nous nous sommes mariés. Je rêvais de me faire baptiser avec Raphaël, mais aujourd'hui, je me fais baptiser seule, car ce baptême pour moi signifie de dire oui à Dieu, comme un mariage. J'ai mis la robe. Je choisis aujourd'hui en premier Dieu dans ma vie. Je l'admire, sa perfection me fascine. Son amour m'accompagne chaque jour. Il est mon confident et je lui fais confiance complètement. Il guide mes pas. Il fait attention de pas mettre des embûches autour et puis il pousse, il fait attention et puis moi je suis là et je le suis. Je ferme les yeux et je le suis. Je sais qu'il a des projets de bonheur pour moi et qu'il est mort à la croix pour moi. Et aujourd'hui, je lui remets tout. Si autrefois j'étais aveuglée, aujourd'hui je peux dire que Dieu existe, qu'il a changé ma vie et qu'il m'a transformée et continue de le faire. Je l'en remercie de tout mon cœur et je veux lui témoigner mon amour aujourd'hui.
Waouh, 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 waouh. C'est bouleversant. Vous savez, ça me donne envie, j'ai envie de me convertir de nouveau, moi. Il y en a d'autres là qui voulaient se convertir ce matin? Wow! Alors, je voudrais dire un mot. Malgré ces témoignages, nous bénissons les catholiques qui sont nos amis. Non, mais écoutez, c'est important ce que je suis en train de dire. Il y a qu'un seul Seigneur. Et dans l'histoire de l'Église, il y a plusieurs Églises. Et les catholiques font partie de l'héritage. Sans catholiques, il n'y a pas de protestants. Il y a un honneur à dire, on peut vivre de réelles expériences avec Dieu dans le monde catholique. C'est différent, mais par contre, nous les honorons. On a des différences et on ne peut pas les ignorer. Il ne s'agit pas de dire on est tous pareils. Non, ce n'est pas vrai. C'est comme dans les familles. Hein. Il y a des frères, il y a des sœurs, et puis il y a des fois, on ne se ressemble pas du tout. Et pourtant, c'est le même sang. Et je voudrais dire que nous avons des frères, des sœurs catholiques. Et il y a des moments, il y a des expériences. Elle a dit, ah, tu as changé de religion. On a entendu ça, tu sais. Ce n'est pas un changement de religion. C'est une révélation nouvelle. Et on connaît Jésus d'une manière et on fréquente des frères et des sœurs qui connaissent la même révélation de Jésus. Les catholiques ont d'autres révélations, d'autres richesses, et on les honore. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, célébrez le Seigneur! Ok, c'est le tour de Marga.
Peuple de Dieu, bonjour. Je m'appelle Marga, je suis d'origine de la Guadeloupe. J'ai été élevée en Guadeloupe au sein d'une famille catholique et très pratiquante. Et tout ce que j'ai entendu les nouvelles dire, je n'étais pas du tout dans cette phase. Parce que déjà en classe, j'étais toujours toute seule, orpheline de père à l'âge de 10 ans. Et ma mère était très stricte, pas de sortie en boîte, pas de cinéma, rien, juste à l'école, entrée. Donc j'avais pas le temps de courir à droite et de faire des amours, des coups de foudre et de tout ça. Donc j'ai 67 ans, je suis à la retraite. Donc, il fallait avoir 21 ans et 3 mois pour quitter la maison familiale. C'était dans les années 50, ça. Et cependant, à l'âge de 20 ans, j'ai dû quitter la famille pour partir en Belgique travailler, car en Guadeloupe, ce n'était pas fameux pour le travail. J'allais souvent à la messe et je n'avais pas d'intimité avec Dieu. Avant d'arriver en Belgique, j'ai trouvé facilement du travail. J'étais hébergée par mon frère et ma belle-sœur. J'étais logée chez eux et chaque fois que je devais toucher ma paye, c'est ma belle-sœur qui allait le récupérer. Donc, je n'avais rien. Donc, j'ai dû quitter ce cocon pour aller vivre dans une pension. Et de là, je me suis mise à boire, à entrer, à sortir, errer sans but. Et je suis tombée sur un homme, sur quelqu'un. On n'a pas parcouru un chemin ensemble. J'ai eu un enfant. Je me suis mariée et j'ai eu un enfant. Mais ce mariage n'a pas tenu. 2 ans après, j'étais divorcée. Donc, j'ai continué encore à entrer et sortir. J'étais pas sous l'autorité de maman. Je rentrais et je sortais. Et j'ai rencontré quelqu'un où j'ai eu encore 2 enfants. Mais cette relation a été soldée par une séparation. Donc, je suis retournée aux Antilles en 1983. Donc, j'ai continué à confronter avec les entrées et les sorties. En 85, j'ai rencontré le Seigneur. Mais, jamais. Il n'y avait pas de suivi. Donc, j'ai encore vaqué. Jusqu'en 1985, j'ai rencontré quelqu'un je me suis mariée. Et de cette union, a eu encore 2 enfants. Donc, en 2003, je donne ma vie au Seigneur. Mais je ne suis pas vraiment investie car il n'y avait pas de suivi. Il n'y a personne pour me guider, donc j'étais encore face au rocher, où je vivais seule les cultes, mais pas d'une oreille pensant que je voyais. C'était une image de Dieu. Parfois, je voyageais, j'allais en Belgique, je retournais. Toujours la même chose. J'ai continué à boire. Et mon mari n'était pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je me trouvais seule avec mes problèmes. Et un jour, je me suis réveillée, je cachais des bouteilles un peu partout pour boire en cachette. Je me réveille, les bouteilles où j'avais disposées, je ne les ai pas trouvées. Ce que j'ai trouvé, c'était une Bible à la place. J'ai trouvé une Bible à la place des bouteilles. Alors, j'ai commencé à lire et j'ai appelé une copine, je lui explique mon rêve, je lui dis, tiens, j'avais ça, et j'ai trouvé une Bible. Elle me dit, bien, monte chez moi, on ira prier. Et on a été prier dans les bois ou dans la campagne, on a été crié à Dieu, on a été parlé, il m'a dit, il faut que tu continues parce que là, maintenant, tu as vraiment eu l'appel de Dieu. Tu dois continuer à prier, tu dois continuer à t'occuper de Dieu. Donc, je devais rentrer ici le 12 octobre. Je me suis sentie malade. J'ai repoussé mon billet. Et depuis lors, j'ai planifié tout de suite à chercher le pasteur Rodrigue. Parce que... j'ai cherché le pasteur Rodrigue parce que je voulais parler pour savoir ce qui m'arrivait. Vraiment, je ne comprenais pas. Et je le remercie. Je lui ai expliqué mon cas. Et tout de suite, elle m'a mise en relation avec Irina et l'équipe. Et je les remercie également. Maintenant, je décidais vraiment à me consacrer à Dieu, à suivre vraiment ses commandements et à marcher dans l'obéissance et dans ses pas.
Est-ce que vous pensez que c'est un ange qui a placé la Bible à la place des bouteilles? Je ne sais pas qui c'est, mais c'est un envoyé de Dieu. Parce que la parole de Dieu fait des miracles. Vous savez que c'est suffisant. La parole en elle-même, elle est puissante, elle est vivante. Et les restaurations, des libérations qui se font lorsqu'on se met à la pratiquer, vraiment, on est heureux de cela. L'INSEE?
Bonjour à tous. Alors, je m'appelle L'INSEE, j'ai 22 ans, je suis arrivée à Montpellier il y a 22 ans. Actuellement, je suis... Il a un an, pardon. Je suis actuellement chargée d'animation à la mission locale et animatrice dans une école maternelle. J'ai fait une année en psycho il y a 3 ans et là, je reprends des études en animation sociale. Je suis arrivée à Clé il y a un peu plus de 2 mois, après avoir cherché dans tout Montpellier une église où je me sentirais bien. Je suis tombée dans une église où on parlait même pas français, quoi. Donc, je comprenais rien, mais je cherchais absolument à... J'avais soif, en fait, de Dieu, on va dire. J'ai grandi de base dans une famille croyante, où on croyait en Dieu, mais c'est comme si on vivait notre vie et quand on serait mort, il nous attendrait. Et puis, si on a vraiment besoin de lui, on l'appelle, mais j'avais pas vraiment de relation intime avec Dieu et on mettait pas vraiment Dieu à la première place. Du coup, on a subi plein de choses, de tribulations, etc. Notamment la séparation de mes parents, qui nous a beaucoup... beaucoup, beaucoup déchiré, moi et ma famille, mes frères, mon frère. Du coup, mon père est parti de la maison, du coup, et j'ai dû supporter des responsabilités vraiment trop lourdes à l'âge d'environ 13 ans. Du coup, j'étais comme devenue une deuxième mère pour mon petit frère, une sorte d'assistante pour ma mère, etc. Et comme je savais qu'elle avait déjà beaucoup de problèmes, je parlais pas de ma souffrance à personne d'ailleurs. Du coup, j'ai commencé à me renfermer. Et plus je me renfermais, et plus ça me déprimait, en fait, parce que je suis quelqu'un de assez joyeux, etc. Du coup, je me renfermais de plus en plus. Et plus je me renfermais, je me renfermais. Donc, j'ai pris en l'espace de 1 an, 10 kilos, moins d'un an, 10 kilos. J'ai déprimé dans les excès de table, dans les choses du monde, etc. Vers l'âge de 17 ans, j'ai cru remonter la pente parce que je commençais à sortir, etc. Le monde m'appelait, ça brillait, etc. J'avais l'air vivante, entre guillemets. Mais plus je voulais vivre, entre guillemets, m'amuser, etc. Et plus ça me tuait à l'intérieur. Donc, c'était de pire en pire, en fait. De l'extérieur, j'avais l'air de vivre, etc. Je m'amusais, tout brillait. Et de l'intérieur, c'était vraiment de plus en plus grave. Donc, à un moment... j'ai une sorte de révélation de Dieu où il montrait en fait il m'élevait. C'était un cauchemar en fait. Il montrait vraiment ce qui se passait dans ma vie, mais d'un point de vue spirituel. Ça m'a fait très peur sur le coup, j'étais terrorisée carrément. J'ai commencé, pas tout de suite, j'étais quand même dans cette vie de désordre, on va dire, mais j'ai commencé peu à peu à prendre conscience de ce que je faisais, ce que ça avait comme signification, comme symbolique, etc. J'ai commencé petit à petit à me calmer, ça, parce que ça me faisait peur surtout, j'étais vraiment terrorisée. Du coup, je commençais à reculer sur les choses que j'aimais avant, de plus en plus, sauf que j'étais dans le même environnement, donc, du coup, ça... mes fréquentations, etc., ils me ramenaient. Et quand je leur disais que je sens que là, je dois changer, ils me regardaient bizarrement, deviens folle, t'es très bien comme ça, continue. Du coup, je priais Dieu, je me disais, je savais qu'il m'avait lancé un peu d'espoir, en fait. Du coup, je me raccrochais à ça et je commençais à prier. Petit à petit, ma relation avec Dieu, c'est devenu une relation, quoi. Je lui posais mes déboires, il me répondait, etc. Petit à petit, j'ai commencé à voir que ce que j'avais reçu, c'était vraiment vrai, et ça commençait à se manifester. Jusqu'au moment où, du coup, à la suite de prières, je suis arrivée à Montpellier. En fait, ma mère s'est mariée, et du coup, je l'ai suivie. Par la force des choses, je suis arrivée à Montpellier. Et du coup, j'avais plus cet environnement qui me ramenait plus bactère, en fait. J'avais plus tout autour de moi, toutes ces choses qui me ramenait à ma vie de désordre. Du coup, j'ai perdu mon travail, vu que je suis arrivée à Montpellier, j'avais pas de travail, pas d'école. Je me suis retrouvée sans vie sociale. Toute ma famille, elle était pratiquement là-haut. Du coup, ça m'a vraiment permis de me recentrer avec Dieu. Sur le coup, j'ai vraiment cru traverser le désert, parce que je me suis dit, je vais pas m'en sortir, j'ai plus de travail, plus d'école. J'arrive à Mogio, donc il y a vraiment pas grand-chose à faire. Du coup, je me suis dit, si je prie pas Dieu, là, je vais vraiment mourir parce que je pourrais pas, quoi. J'ai plus de vie sociale, etc. Du coup, j'ai commencé à ma soif de Dieu, elle grandissait petit à petit, à force de lire la parole, etc. Je commençais à vraiment voir que je changeais, c'est même pas par ma force, mais Dieu est en train de me changer vraiment. Et ça commençait à se voir de plus en plus. Je comprenais plus trop pour une folle quand je disais que j'avançais vers Dieu, quoi. Du coup, petit à petit, j'ai commencé à chercher une église dans laquelle parce que j'allais à l'église en bas de chez moi à 2 minutes, mais j'avais pas vraiment de... C'était moi et ma foi, quoi. Le prêtre, je connaissais même pas son nom, d'ailleurs. Voilà. Donc, si tu veux venir à l'église, tu viens. Il y avait pas vraiment de relation avec les fidèles. Enfin, moi, j'en avais pas avec les fidèles, etc. Et je cherchais vraiment une église où je pourrais me sentir bien, etc. Jusqu'à ce que je vienne à Clé, donc il y a 2 mois. Et à la suite de ça, je priais pendant le week-end d'intégration, ici, là. Et je me rappelle que le vendredi soir, on avait prié jusqu'à 2h du matin. Rien du tout, pas de manifestation, rien. Parce que jusqu'à maintenant, je priais un Dieu, mais il me parlait, mais j'avais pas vraiment connu Jésus. Donc j'étais à genoux, là, en train de prier. Le vendredi soir, jusqu'à 2h du matin, rien du tout, pas de manifestation. Le samedi, toute la journée, pas de manifestation. Je me suis dit, bon, si ça continue, moi, je vais plus venir, parce que Jésus ne veut pas de moi. Et puis voilà, faut laisser tomber, quoi. J'ai un problème. Et le dimanche, juste avant de partir, je m'agenouille là et je dis, Seigneur, là, c'est bon, quoi, si tu veux que je ne revienne plus, continue. Et j'ai senti une sorte de présence descendre sur moi. Et c'est comme si, pendant, je sais pas, c'est comme si les 22 ans que j'avais accumulés de problèmes, de poids, etc., il l'a enlevé comme ça, il l'a retiré. Et ça m'a complètement, bon, j'ai pleuré pendant au moins 20 ans. J'étais légère, quoi. Et voilà. Du coup, maintenant, c'est officiel, je le suis. Là, c'est sûr. J'ai vu, j'ai connu, j'ai tout. Voilà.
Elle fait partie de la famille maintenant, hein, c'est ça? Vous savez, je pense que toutes celles qui sont passées là, elles ont pleuré à un moment donné. Alors c'est pas parce que ce sont des filles, vous voyez. Mais très souvent, écoutez-moi, très souvent, même des personnes qui sont pas du tout croyantes et qui ne veulent pas se convertir, hein, c'est-à-dire qu'ils disent je crois pas en Dieu, ils viennent ici, ils vivent un moment. Je m'en souviens d'une, elle était devant à côté de moi. Et puis elle me dit mais j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Alors je lui dis mais pleure. Et puis à un moment donné, elle a fait il y a un effet du Saint-Esprit qui vient sur nous et c'est pas du tout de la mauvaise tristesse. C'est en train d'annoncer quelque chose, que ton passé est terminé.
Ça prend, ça annonce quelque chose de nouveau qui vient. Et souvent, les émotions sont saisies, c'est normal. Si vous pleurez là, si vous avez envie de pleurer là, pleurez. C'est normal, c'est juste le Saint-Esprit qui est sur vous et ça touche nos émotions. Nous sommes comme ça créés avec ça et puis Dieu parle aussi au travers de nos émotions. Alors, c'est Malala. On va accueillir Malala.
Bonjour. Alors, je m'appelle Malala, j'ai 24 ans et je suis originaire de Toulouse. J'ai deux grands frères et on a grandi dans une famille protestante réformée malgache. On a toujours entendu parler de Dieu, on le priait, mais honnêtement, c'était juste une habitude. Et je ne comprenais pas l'importance de l'avoir dans ma vie. En grandissant, je suis devenue une personne méchante, colérique, jalouse, manipulatrice et menteuse. Je fumais de la drogue, je buvais jusqu'à en être malade. Je ne respectais personne, je ne m'aimais pas du tout. Et tout ça me semblait normal, mais dans ma tête, il y avait toujours une petite voix qui me disait que ce n'était pas bien. Un jour, à l'âge de 18 ans, j'étais sur le chemin des vacances avec une amie, et à savoir pourquoi, je me suis mise à prier au-dedans de moi pour mon frère aîné. À cette époque, il faisait ses études à 2 heures de route du domicile familial, et il rentrait quasiment tous les week-ends. Et j'ai prié Dieu qu'il le protège où qu'il soit. Pourquoi cette prière? Pourquoi ce moment précis? Et surtout, pourquoi lui? Je ne savais pas du tout. Le lendemain, ma mère m'a appelée pour me prévenir que mon frère a eu un accident de voiture en rentrant à la maison, mais il n'avait rien. J'étais à la fois choquée et soulagée. J'étais tellement heureuse que Dieu ait entendu ma prière et je pouvais continuer tranquillement mes vacances. Cet événement m'a appris l'importance d'avoir Dieu dans ma vie. En 2014, j'ai déménagé sur Montpellier et j'étais en couple avec un homme fraîchement converti. Il voulait absolument que je comprenne le sacrifice de Jésus à la croix. Je l'entendais, je voyais son enthousiasme, mais je ne ressentais rien. Cet acte, en fait, était sans plus pour moi. Je ne saurais vous dire ni quand ni comment, mais ces paroles ont fini par toucher mon cœur et j'ai ressenti quelque chose de très fort en moi. Je venais de comprendre réellement que Jésus était mort pour moi, par amour pour moi, et qu'il ne s'est pas arrêté là, parce que Dieu l'a relevé de la mort. C'était fou, j'en revenais pas. J'avais envie de crier sur tous les toits ce que Dieu m'avait révélé. Pendant les 3 années qui ont suivi cette révélation, je me posais beaucoup de questions, parce que je suis une personne qui aime comprendre les choses, qui a besoin de savoir dans quoi je mets les pieds avant de m'engager. Et j'ai lutté avec mes propres forces pour devenir une meilleure personne. Et malgré tous mes efforts, je voyais que je ne changeais pas. J'ai compris en lisant la Bible qu'il n'y a que Dieu qui transforme les cœurs. J'ai alors capitulé, je lui ai demandé pardon pour mes péchés et je lui ai donné ma vie. Et à partir de ce moment-là, Dieu a peu à peu transformé ma vie et mon comportement. Il m'apprend la patience, la persévérance, la douceur, le pardon et surtout l'amour. Et il travaille encore sur son œuvre. Je vois la main de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Dans mon travail, mes relations humaines, je m'ouvre de plus en plus aux autres. Dans mon couple, on va se marier l'année prochaine. Et aujourd'hui, je m'engage devant vous tous, et surtout le monde invisible, à le suivre tout le reste de ma vie, parce que je suis la fille bien-aimée de Dieu, et rien ni personne ne pourra me séparer de lui.
Oh, on peut célébrer fort le Seigneur, hein. Vous voyez, ce qui me touche, c'est qu'il y a une authenticité. Moi, je ne sais pas comment... C'est authentique ce qu'on entend. Et on passe de quelque chose de lointain, d'intellectuel, mais qui devient personnel. Dans chacun de ces témoignages, c'est ça. Il y a quelque chose qui était lointain, mais à un moment donné, il y a un rapprochement, il y a un effet concret pour soi. Et c'est à ce moment-là, on devient quelqu'un qui est connu de Dieu. Ou en tout cas, nous, nous mettons à le connaître, et ça devient personnel. C'est ça qu'on célèbre. Raïssa.
Bonjour à tous. Je m'appelle Raïssa, j'ai 30 ans. Je suis mariée et j'ai un petit garçon de 4 ans. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler devant tant de monde, mais je vais vous raconter un peu mon témoignage. J'ai perdu mes parents très tôt. Donc mon père quand j'avais l'âge de 3 ans et ma mère à l'âge de 7 ans. Je suis devenue très tôt orpheline de père et de mère. J'ai passé toute mon enfance en Afrique et mon adolescence. Et en grandissant, ce manque d'amour-là a créé des mauvais caractères en fait en moi. Je ne connaissais pas le respect et je ne savais pas comment en fait comment gérer ma vie. Et excusez-moi.
Alors, Raïssa, voici ce que je te propose. Je vais te poser quelques questions, de telle sorte que tu aies une sorte de plan. Parce qu'elle a oublié ses notes, et je vais essayer de faire preuve de structure pour qu'elle réponde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour te conduire à Jésus? Quel est l'événement qui a déclenché la rencontre avec Jésus?
Je suis tombée dans une grande dépression. Mmh. Et c'est dans cette grande dépression-là que j'ai crié à Dieu.
D'accord. La dépression, elle a été provoquée par quoi?
Est-ce que je peux reprendre mon témoignage du début? Je peux reprendre dès le début.
D'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a que 5 minutes. Donc, il faut que tu gardes le cap. Okay. On l'encourage, s'il vous plaît?
Et en grandissant, j'ai développé de mauvais caractères. Donc le mensonge, la manipulation, la dissimulation, toutes les mauvaises choses. Et je ne m'aimais pas. Et puis, j'ai fait le catéchèse, donc j'ai été baptisée catholique. Mais je connaissais le béaba de la religion, mais ça ne me touchait pas. Et j'étais loin de Dieu. Et peu à peu, en fait, je me suis éloignée en fait de Dieu et je suis devenue athée. Donc je ne croyais plus en Dieu. Je me disais que si Dieu existait, j'allais pas vivre tout le malheur que je vivais et toutes les mauvaises choses qui m'arrivaient. Et je me suis éloignée. J'étais très très loin. Je vivais dans l'alcool, dans pas mal de choses. Et puis il y a 2 mois, je rencontre une étudiante qui me parle de Jésus. Et là, je lui ai tout de suite dit, en fait, que je ne crois plus en Dieu parce que j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. Et là, elle me dit, si tu as abandonné Dieu, Dieu, lui, ne t'a pas abandonné. Et tout de suite, cette parole-là, en fait, m'a touchée, en fait, quelque part. Et puis, 2 mois après, je sombre dans une très grande dépression suite à un échec de ma vie. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelée, justement, de cette parole que cette étudiante m'a dit. Et c'est à ce moment-là, dans cette tristesse, dans l'angoisse dans laquelle j'étais, j'ai prié, je me suis repentie et j'ai demandé justement pardon à Dieu d'être loin de lui. Et tout de suite, les choses n'ont pas changé, mais la semaine qui a suivi, j'ai ressenti une énorme paix, une joie, l'amour. Et j'ai trouvé du travail parce que j'en avais pas à l'époque. Et il y a pas mal de choses justement qui se sont rétablies dans ma vie. Et la sensation que j'ai, c'est que j'ai un père maintenant. Je suis plus orpheline parce que j'en ai souffert depuis longtemps. Et voilà, je me suis tout le temps sentie en fait comme une mauvaise personne, comme si je méritais justement. Je cherchais l'amour à travers pas mal de choses. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai un papa qui ne me juge pas en fait, qui prend soin de moi en fait. Et voilà, voilà un peu mon témoignage aujourd'hui.
Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Waouh, 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 waouh! Ouais, Dieu est un père. Et c'est fort, hein, cette histoire, orpheline de père et de mère, et puis à sa conversion, rencontrer et confesser que Dieu est père. C'est un début, c'est un processus, on est très heureux de cela. On a deux hommes dans la fournée. Deux hommes. Et c'est Philippe qui commence.
Bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Philippe. J'ai 53 ans. Je viens d'une famille de 6. Je suis le quatrième. Famille catholique, mais pas pratiquante. J'ai... pas pratiquante, mais j'ai quand même suivi, j'ai eu un parcours, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion et j'ai eu un enseignement scolaire chez les frères, mais bon, sans plus quoi. Et par la suite, je suis rentré dans la vraie vie. J'avais un peu oublié le Seigneur, quoi. Enfin, j'avais pas trop adhéré. Et par la suite, dans la vie, ça a été plus compliqué. Je suis tombé dans la drogue, dure, pendant plus de 10 ans, par injection et tout le cinéma, le costaud, quoi. Et puis j'ai trouvé une femme avec qui je me suis mis. J'ai fait une cure pour être désintoxiqué, ça s'est passé bien. Et j'ai eu un enfant, ça a duré bien à peu près 6 ans. Et cette femme m'a quitté, suite à cette rupture, je me suis mis dans l'alcool très fort, très très fort. Je buvais 3 bouteilles de gin par jour, quoi. Donc c'est assez costaud. Et je me suis occupé de mon fils, mais tout en étant dans l'alcool. Et... jusqu'à ce que mon fils prenne son envol, il y a un an. Et moi, j'avais fait maintes et maintes cures pour essayer de m'en sortir. Parce que, bon, j'avais pris conscience de mon problème. Et par la suite, j'ai rencontré, quand mon fils est parti, j'ai eu cette chance, j'ai rencontré une femme qui m'a amené à l'église, à Lunel, puisque je viens de Lunel. Et... je suis resté pendant un an sur Lunel. J'ai connu l'église de Clé il y a un an, justement, au premier de l'an, l'année dernière. Juste une fois. Et donc, j'étais à l'église de Lunel. Ça se passait normalement, mais sans plus. Et par la suite, j'ai connu l'église de Clé. Et quand je suis venu à l'église de Clé, ça a vraiment été une révélation, quoi. Pour moi, vraiment, c'était là, c'était ici que je voulais être. Et par la suite, bon, j'ai fait une cure de désintoxication pour l'alcool, qui a marché. Ça fait un an que je suis abstinent. Merci. Il faut savoir que pendant 10 ans, il n'était pas rentré une goutte d'eau dans mon corps. C'est assez hallucinant, mais bon. Donc, enfin, je réussis. Et je vois là derrière des bénédictions. Bien évidemment, j'avais été à Mulhouse pendant une semaine, à jeûne et prière, qui m'ont fait me rapprocher de plus en plus du Seigneur. Et Clé, vraiment, ça a été la révélation, quoi. J'ai vraiment ressenti des choses très, très fortes. Et depuis que je suis là, je ne cesse d'avoir des bénédictions au quotidien. Et j'espère que ça durera encore longtemps. Et donc je suis venu au Seigneur pour être dans l'obéissance, dans la repentance, et non plus dans le mensonge et le péché, comme je l'étais par le passé. Mais bon, on peut pas tout gommer comme ça d'un coup, hein. La restauration est difficile, mais elle est sur un bon chemin, quoi. Donc bon, tant que ça continue comme ça, bien, alléluia.
En fait, je voudrais dire, Philippe, nous sommes comme toi. Hein. C'est-à-dire que nous, à un moment donné, été touchés, Dieu nous a restaurés, c'est un parcours. Si nous sommes là, personne ne peut dire « je suis arrivé ». Nous sommes tous en parcours. Et suivre Jésus, c'est toujours dans l'humilité, la reconnaissance de nos limites. Besoin de lui, besoin les uns des autres, et en fait, un positionnement de foi. Le dernier, c'est Jean-Marie. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît ?
Bonjour tout le monde, bonjour, merci. Je suis Jean-Marie Bekaleobam, j'ai 22 ans, je suis étudiant en faculté de sciences économiques et sociales, où j'apprends avec passion l'économie. De famille chrétienne, très jeune j'ai été amené à l'église, très jeune j'ai été baptisé, je pense 4 ans. À l'époque c'était le gâteau de la faim qui m'intéressait. Sans réellement connaître le Dieu que je priais, ni pourquoi je le priais. Je sais juste que je devais le faire parce que, bon, je suivais le rythme de la famille. Ensuite vient l'adolescence, cet âge-là où, pour certains, tout va de travers. Et ça a été le cas. Alcool, contradiction totale avec les parents. C'était vraiment... en conflit permanent avec les parents. Je n'avais plus d'attache pour l'école. J'y allais simplement par formalité. Parce que pour moi, c'était obligé. Papa me déposait le matin, je ne pouvais pas faire demi-tour. Je serais vraiment incapable de préciser l'événement qui a suscité ma conversion. Je pense que ça a été progressivement une conviction de cœur. C'est juste l'œuvre de Dieu. Tout ce que je sais, c'est que mon cœur a été convaincu et j'étais sûr que Dieu ne se réjouissait pas de cette vie-là et qu'il avait quelque chose de meilleur pour moi. Et là, j'ai commencé à cheminer tout seul, à me dédouaner de certaines habitudes, à rechercher une certaine droiture dans ma façon de faire. Gloire à Dieu, ce processus est toujours en cours. Puis je suis arrivé à Montpellier, ça fait un an et quelques mois maintenant, à l'église clé, par le biais de ma sœur Ophélie et Ya. Vraiment, je suis arrivé, j'ai tout de suite été saisi. Dès le premier jour, j'ai vraiment ressenti cette appartenance-là. Déjà à l'accueil, tout le monde m'a fait la bise. C'était chaud, mais c'était formidable. Chemin faisant, je me plais. Et j'ai raté plusieurs sessions de baptême, car pour moi, je pensais que je l'avais déjà eu, bien que mes souvenirs étaient vagues et lointains. Mais au plus profond de moi, j'ai eu cette certitude, cette conviction de le refaire. Je me posais énormément de questions, j'étais dans l'incertitude totale. Et ensuite, je me suis rapproché des dirigeants de l'église, notamment du pasteur Rodrigue, qui a pris du temps. Pour moi, il a vraiment pris du temps de m'expliquer ce que c'est le baptême, pourquoi le baptême. Et une phrase m'a touché particulièrement. Il m'a dit, on peut rentrer dans les Écritures. C'est vrai que ça ne... Mais en fait, elle m'a touché parce que j'ai vu... Il m'a apporté des explications. Il a observé une petite réticence. Et il a eu ce désir-là de prendre encore plus de temps avec moi. De m'amener à consulter la parole et de me convaincre par la Bible. Ensuite, j'aimerais aussi vraiment dire merci à Christian Ratéfi, vraiment un homme formidable, qui a pris le temps de m'expliquer la différence entre immersion et aspersion dans l'humour. Vraiment, pour moi, si l'amour a un nom, je dirais que ce serait la famille Ratéfi. C'est formidable. sans oublier Franck Fama, vraiment, qui a pris du plaisir à nous expliquer, qui a pris du plaisir à nous enseigner. C'était des moments formidables. Il y a des moments où j'arrivais en retard, à 9h30, mais il se posait toujours avec moi. Tout le monde partait, il disait, bon, vas-y, on reste. Allez, pars. Il m'accordait toujours du temps. C'est vraiment formidable de voir comment les personnes se dévouent à nous accompagner dans tout ce qu'on fait. Vraiment, je bénis Dieu, car le plus grand miracle qu'il a fait dans ma vie, c'est d'accepter sa parole. Parce que j'étais dans des raisonnements, mais aujourd'hui je l'accepte vraiment et elle se fait toujours chair au-dedans de moi. Et là, c'était pour moi la certitude de me faire baptiser. Vous savez, Dieu, c'est un gentleman. Il ne nous brutalise pas. Et par cet acte, vraiment, je lui donne une autorité légale sur ma vie. Et enfin, aujourd'hui, je peux dire avec force et assurance que je suis mort et ressuscité avec Christ Jésus. Toutes choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont en train de devenir nouvelles.
Alléluia.